Troisième partie. Chapitre 1. Jeudi 13 avril, 10h. J'avais l'intention d'introduire la partie de notre récit consacrée à l'exposition universelle de Chicago en expliquant pourquoi Henry James, à l'encontre de son instinct et de ses habitudes, allait accompagner Holmes dans cet épisode de l'aventure du détective. Mais à la vérité, j'ignore pourquoi il le fit. Nous connaissons tous des individus plus capables que d'autres de cacher leurs pensées, mais celles de Sherlock Holmes et de Henry James me sont demeurées en grande partie impénétrables, malgré ma longue expérience des hommes et des personnages. Le contrôle exercé par Holmes sur ses secrets et modes de réflexion s'explique facilement. Le détective est un autodidacte, secrètement issu des rues de Londres, qui a passé presque toute sa vie à exercer son brillant intellect et sa volonté implacable en un dangereux numéro d'équilibriste. L'esprit et le cœur de Holmes, à supposer qu'il est un cœur, fonctionnent de manière trop étrange et compliquée pour nous être compréhensibles ou tolérables. Mais les pensées et les sentiments de Henry James sont cachés derrière une armure psychique plus épaisse encore. À l'instar de Holmes, James a créé son personnage, celui de l'artiste, du maître, du célibataire uni seulement à son art, de toute pièce et par la seule force de sa volonté, suivant peut-être le dicton de John Keats selon lequel ce qui est créatif doit se créer soi-même. Mais contrairement au détective, James a tenté de se dissimuler à lui-même ce qu'il y avait au fond de lui. Chaque mot qu'il a jamais écrit, dans ses lettres ou ses œuvres de fiction, menace de révéler une chose aussi ténue soit-elle que l'écrivain ne veut pas révéler. Ses efforts d'autodiscipline pour éviter de se dévoiler ont été terriblement efficaces. Il a si bien réussi à garder secrètes ses pensées intimes et les raisons de la plupart de ses décisions que nous nous retrouvons à l'extérieur de cette construction corsetée et en apparence contradictoire qu'est Henry James. Quoi qu'il en soit, James avait donc décidé de suivre Holmes à Chicago et je lui demande, ainsi qu'à vous, auditeurs, de me pardonner de faire un bond de 2 jours dans la chronologie de l'histoire avant de revenir à de précédents événements. Le matin de leur 2e jour à Chicago, Sherlock Holmes insista pour emmener James faire un tour en bateau afin de découvrir la nouvelle ville blanche de l'exposition colombienne depuis le lac Michigan. Le petit vapeur partait d'un embarcadère du centre-ville, non loin de l'hôtel où ils étaient descendus, pour une excursion de 90 minutes. « Je ne vois pas bien l'intérêt de cette sortie », déclara James, se tenant à côté de Holmes au bastingage. Le Columbus, bateau à vapeur moderne à 3 ponts, équipé de rangées de sièges, pouvait accueillir au moins 300 passagers. Une fois l'exposition inaugurée, il ferait la navette toutes les heures entre le centre-ville et la ville blanche, convoyant les visiteurs sur le site, puis les ramenant épuisés à leurs hôtels. Mais ce jour-là, il n'y avait qu'une 50aine de passagers à bord pour profiter du spectacle offert par la courte croisière jusqu'à Jackson Park qui, tous, à l'exception de James et du presque impassible Holmes, semblaient très excités d'apercevoir quelques bâtiments encore en construction. « Je vous montre l'avenir », répondit Holmes. La brume qui couvrait le bord du lac lorsque le bateau avait quitté l'embarcadère se leva au moment où ils approchèrent de Jackson Park où se tiendrait l'exposition. Et le soleil devint une présence presque tangible, réchauffant les touristes et éclairant le rivage avec l'intensité d'une torche. James savait que techniquement, Jackson Park faisait partie de Chicago, mais ses presque 2 km² en front de lac étaient jusqu'ici une zone marécageuse, sablonneuse et déserte, négligée par les spéculateurs immobiliers qui n'avaient cessé de repousser les limites de la ville vers la prairie en suivant l'extension du réseau de chemin de fer à l'ouest. Pendant presque 2 ans, les journaux américains s'étaient plu à rapporter les réactions horrifiées des célèbres architectes de la côte Est, les meilleurs du pays, choisis par le patron de l'exposition, Daniel Hudson Burnham, en apprenant que sous 30 cm de sol tourbeux, partout dans la zone de Jackson Park, les terrassiers ne trouveraient que du sable et encore de la terre saturée d'eau. Burnham avait chargé ces fameux architectes de concevoir ce qui, pour la durée de l'exposition, serait les plus grands bâtiments d'Amérique du Nord et de les ériger sur de la terre meuble, autant dire des sables mouvants, plutôt que sur la pierre à laquelle ces architectes étaient habitués à New York et ailleurs. Il fallait environ 1 heure aux voitures à cheval pour aller du centre-ville à Jackson Park, mais moins aux trains jaunes, surnommés les wagons à bestiaux par les habitants de Chicago, empruntant l'embranchement ferroviaire spécialement aménagé jusqu'aux portes de l'exposition. Quand les spéculateurs avaient refusé de louer ou de vendre de l'espace aérien au-dessus des avenues menant au site, à moins d'empocher l'intégralité des profits, les ingénieurs du chemin de fer avaient conçu une ligne aérienne et des trains adaptés aux étroites ruelles allant du nord au sud, sans avoir besoin d'acheter le moindre espace. Le Columbus mit environ 25 minutes à atteindre le lieu de l'exposition. « Grand Dieu !» s'exclama James. En 3 décennies passées à l'étranger, il avait contemplé assez de merveilles architecturales pour que la plupart des nouvelles constructions dont les Américains s'enorgueillissaient tant lui paraissent petites, laides et beaucoup trop fonctionnelles comparées aux beautés millénaires d'Europe. Il n'avait pourtant jamais rien vu de semblable à la ville blanche. L'espace d'un instant, il ne put que regarder, bouche bée, depuis le bastingage. « Mon Dieu !» répéta-t-il au bout d'un moment. L'ancienne zone marécageuse était métamorphosée. Sur 2 hectares traversés d'allées de pierres blanches se dressaient d'innombrables bâtiments blancs d'une taille stupéfiante, des sculptures s'élevant vers le ciel, des dômes géants, des ponts aux arcs élégants. De vertes pelouses avaient été aménagées, ainsi qu'une île plantée d'arbres et de champs de fleurs. Sous l'éclat du soleil, la ville blanche semblait si incandescente que James dut plisser les yeux. Chicago était une cité relativement neuve. Elle avait été largement rebâtie après le grand incendie de 1871. Mais l'écrivain mesura à quel point elle était noire et sale comparée à la vision qu'il avait devant les yeux. À Chicago, les grands immeubles de briques bloquaient la lumière et les rues caverneuses étaient encore assombries par les rails du métro aérien. Si l'on exceptait les bords du lac, Chicago était une ville canyon, obscure, bruyante et crasseuse. James savait que sa chère Londres était tout aussi sale, voire davantage, mais au moins avait-elle le bon goût de cacher sa crasse sous un épais brouillard la plus grande partie de l'année. Silencieux jusqu'ici, Holmes se mit soudain à jouer les guides touristiques. « Il y a 14 grands monuments dans la ville blanche. Celui dont nous nous approchons, appelé le Palais des Manufactures et des Arts Libéraux, a une surface de 120 000 mètres carrés. Son toit mesure 120 mètres de long et 60 mètres de haut. À lui tout seul, il présente une surface à peindre de 5 hectares. En plus de ces grands monuments, on dénombre 200 autres pavillons dans la ville blanche, dont un pour chacun des 47 États américains et pour les territoires. James sourit, amusé de profiter d'un guide personnel à l'accent anglais. Certains passagers se rapprochaient d'eux le long du bastingage pour écouter Holmes. Quand le président Cleveland appuiera sur le bouton le 1er mai, les dynamos de la ville blanche fourniront 3 fois la quantité totale d'électricité disponible à Chicago et 10 fois plus qu'il n'en a été produit pour l'exposition universelle de 1889 à Paris. Plus de 120 000 lumières à incandescence et 7 000 lampes à arc éclaireront les boulevards, les pelouses, les allées et les fontaines. Il y aura très peu de coins d'ombre dans la ville blanche. Les concepteurs ont par ailleurs engagé leurs propres forces de police, les 2000 membres de la garde colombienne, non seulement pour arrêter ceux qui commettraient des délits ou troubleraient l'ordre public, mais pour intervenir avant que ces crimes ne soient commis. Aucune autre ville d'Europe ou d'Amérique ne met en œuvre une politique aussi éclairée.
« Qu'est-ce que c'est que cette immense chose très laide et inachevée ? Là-bas, au nord et un peu à l'ouest du palais des manufactures ?»
demanda James faisant un geste avec sa canne.
« On dirait qu'ils sont en train de construire la coque de l'Arche de Noé. »
Ce sera la réponse de la ville blanche à cette tour Eiffel qui a fait grand bruit à l'exposition de Paris, expliqua Holmes. Un certain monsieur Ferris est en train de dresser une roue géante dont les 36 cabines pourront accueillir jusqu'à 40 personnes chacune. Les passagers monteront à 80 mètres de haut, d'où ils auront, d'après la promesse de monsieur Ferris, une vue stupéfiante sur le lac Michigan, sur la ville blanche et le Midway Plaisance avec toutes ses attractions et sur Chicago. Ce que vous voyez là n'est que la structure de la moitié inférieure de l'immense roue. D'après ce que j'ai entendu dire, l'axe qui sera bientôt monté est la pièce métallique la plus lourde jamais forgée sur le continent. Il mesurera presque 18 mètres, pèsera 46 tonnes et devra être assez solide pour supporter le poids de la roue, des nacelles et des gens, soit 6 fois celui du pont à cantilever de Cincinnati au-dessus de l'Ohio dont vous paraissez si fiers, vous les Américains. Les promoteurs de la ville blanche et M. Ferris promettent que la grande roue sera finie et en état de marche avant le milieu de l'été au plus tard.
D'où tenez-vous ces renseignements, Holmes? Ça ne vous ressemble pas de vous encombrer d'autant de faits et de chiffres?
Holmes tourna le dos à la ville blanche, s'adossa au bastingage et sourit.
J'ai eu droit à une visite privée hier quand vous étiez à l'hôtel au chevet de M. Clemens. Et même un idiot est capable de se souvenir de certaines informations pendant une courte période. C'est ainsi que des étudiants sortent de Cambridge et d'Oxford avec les félicitations du jury, comme vous le savez certainement.
James contempla la ville blanche alors que le Columbus contournait de loin une jetée de 800 mètres avançant dans le lac Michigan. Des ouvriers s'y affairaient à construire un trottoir roulant dont on distinguait la forme d'abord linéaire puis circulaire.
Il vous en coûtera 10 cents pour emprunter le trottoir qui vous emmènera du vapeur à l'entrée de l'exposition, dit Holmes sans tourner la tête pour le regarder.
À mon avis, la plupart des visiteurs l'essaieront juste pour l'attrait de la nouveauté.
James s'émerveilla devant les petits bassins et les voies d'eau aménagées partout dans la ville blanche. On avait transformé un marécage en une version plus propre et plus aérée de sa Venise bien-aimée.
Et tout cela en 21 mois, dit Holmes comme s'il lisait dans les pensées de l'écrivain.
Où le président Cleveland fera-t-il son discours inaugural et lancera-t-il les festivités? Demanda James.
Holmes se tourna et pointa sa canne. Vous voyez, entre les colonnades du péristyle, ce dôme qui s'élève à l'extrémité du bassin, dans l'alignement du haut piédestal où sera dévoilée l'immense statue de la République signée Saint-Gaudens. Oui, ce bâtiment avec une sorte de pavillon à chaque coin. C'est le palais de l'administration, et c'est de là que parleront le président et les autres dignitaires.
Ils seront tournés de ce côté, vers l'est, la statue et le lac, et l'on peut supposer que toutes les allées jusqu'au péristyle seront envahies par une foule d'Américains excités.
Holmes tendit à James un petit télescope rétractable. L'écrivain porta l'instrument à son œil et le dirigea vers le dôme.
Est-ce que ce sont des anges que je vois sur la terrasse supérieure de ce palais de l'administration, juste sous le dôme?
8 groupes d'anges, en fait, qui soufflent dans des trompettes pour fêter la victoire de la paix, même si je crains qu'ils ne soient un tantinet trop optimistes.
En plus des centaines de lampes à incandescence qui dessinent les contours des parties supérieures du palais la nuit, cette terrasse que vous regardez est cerclée d'immenses torches à gaz conçues pour illuminer le dôme doré.
Grand Dieu !
Commenta James, orientant le télescope vers la myriade de ce qui ressemblait à de gigantesques palais de marbre, chacun festonné d'une multitude de statues, pinacles, tours, arcs, entablements et frises richement décorées.
Je ne serais pas surpris que les habitants de Chicago veuillent venir s'installer dans la ville blanche une fois l'exposition terminée.
Ils se retrouveraient sans abri au bout d'un an ou deux, sinon moins, compte tenu des violents orages que connaît Chicago, dit Holmes.
James baissa le télescope.
Pourquoi donc?
Même si le fer et l'acier ont été largement utilisés sur le chantier, plus de 18 000 tonnes rien que pour les grands monuments, si j'ai bien compris, sans parler du bois, ce qui ressemble à du marbre est en réalité du staff.
Du staff?
Il s'agit apparemment d'un mélange exotique de plâtre, de ciment et de chanvre, ou autres matériaux fibreux de ce genre, peint pour ressembler à de la pierre.
Tous les grands monuments, la plupart des pavillons des États et la grande majorité de la statuaire et des bas-reliefs que vous voyez sont faits de staff, un matériau très malléable sous sa forme semi-liquide, et plus léger que le bois.
30 000 tonnes n'en ont pas moins été nécessaires pour construire la plupart des bâtiments de la ville blanche.
Ils n'ont pas vocation à demeurer ?
Demanda James avec un pincement de déception. Contre toute attente, il se surprit à éprouver de la fierté pour ce que ses compatriotes américains avaient créé en si peu de temps.
Non. S'ils sont repeints régulièrement, ils dureront peut-être quelques années, mais laissés à la merci des éléments, tous ces incroyables édifices que vous admirez vont fondre et moisir comme le gâteau de mariage de Miss Havisham en un an ou moins.
James rendit le télescope à Holmes, qui le replia et le remit dans sa poche. Le Columbus décrivit une grande courbe vers l'est, puis reprit la direction de la ville noire en longeant le rivage. L'écrivain se disait que l'Amérique n'avait pas sa pareille pour créer des métaphores la concernant. Dans ce cas, la vision d'un bel avenir de marbre, sain et sûr, qui n'était en réalité qu'un rêve, sans aucun matériau solide pour le soutenir.
Bon, dit James encore déçu que sa Venise américaine ne soit qu'illusion.
De toute façon, l'avenir de la ville blanche n'est pas notre problème.
En effet, acquiesça Holmes,
Mais quoi qu'il advienne, tous nos problèmes seront terminés le 1er mai.